Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Radio Présence dans votre émission Vivante Église. Aujourd'hui, c'est une nouvelle émission reportage que nous vous proposons comme tous les mercredis. Marie-Pierre Pavlak, notre journaliste, s'est rendue avec les amis de Radio Présence dans les rues de Toulouse pour voir quel héritage Mgr Saliège nous a laissé. Extrait de la lettre pastorale de Mgr Jules Géraud Saliège, archevêque de Toulouse, lu sans commentaire dans toutes les églises de la Haute-Garonne le dimanche 23 août 1942. 80 ans plus tard, ces mots repris ici par des écoliers toulousains lors d'une cérémonie commémorative organisée à Toulouse un 27 janvier dernier par le Mémorial de la Shoah donnent un nouvel écho à cette lettre sur la personne humaine écrite au cœur des ténèbres et des violences de la Seconde Guerre mondiale. Des mots qui ont fait date, qui ont pesé sur l'histoire, qui l'ont traversée et qui encore et toujours et plus que jamais peut-être entrent en résonance avec les violences et les crimes de notre 21e siècle. Je vous propose aujourd'hui, alors qu'en ce mois de novembre 2022, les communautés juives et catholiques de Toulouse, dans un esprit fraternel, soucieuse de transmettre l'actualité de cette déclaration, organise de concert plusieurs événements, vous en retrouverez le détail sur le site du diocèse de Toulouse, de mettre nos pas dans ceux de ces hommes et de ces femmes qui, ici, chez nous, en cette région qu'il n'y a pas si longtemps encore on appelait Midi-Pyrénées, se sont élevés contre la barbarie, dans les pas aussi de tous ceux dont on a voulu faire disparaître jusqu'à la mémoire, en vain. Leur nom figurera jamais et pour toujours sur le mur d'un mémorial. De Toulouse à Auschwitz, quand l'histoire reprend chair.
Donc là, vous êtes au sein du monument de la Shoah qui a été inauguré en 2008. Ce monument est le deuxième en France consacré à la Shoah dans l'espace public. Il n'y en a pas d'autres dans les villes. Il a été la réalisation d'une union entre les collectivités locales et le CRIF, plus Robert Marco et d'autres survivants de la Shoah. Donc il y a eu un appel auprès d'artistes, et c'est celui-ci qui a gagné. Et pourquoi a-t-il gagné? Parce que, à la fois, il va évoquer l'histoire, mais le judaïsme, donc l'histoire juive. Alors l'histoire, elle est assez simple, enfin assez simplement. On peut retrouver les éléments. Vous avez 6 arches, donc 6 millions de juifs, c'est le chiffre conventionnel. Les enfants disent les 6 branches de l'étoile. C'est vrai aussi, mais ça c'est le hasard. Mais en tout cas, les 6 millions de juifs. Alors, on a eu beaucoup de propositions avec des monuments au ras du sol, comme à Berlin. Celui-ci a une particularité, c'est qu'il s'élève. Et au niveau de l'histoire, il rappelle... que les juifs, en particulier à Auschwitz, enfin dans les camps, les centres de mise à mort, partaient en fumée. Et on a un peu cette idée symbolique de la cheminée. Et puis, on a voulu aussi un espace ouvert sur la ville, parce que la Shoah n'est pas simplement une parenthèse dans l'histoire, n'est pas un épisode historique déterminé par le temps, c'est aussi notre histoire contemporaine, c'est aussi notre histoire à tous. Et c'est vrai que ce monument, on le traverse. J'ai une photo où on avait, ici, j'étais venu avec une classe et il y avait un sans domicile fixe qui dormait là. On l'a laissé dormir, pourquoi pas? Il n'y a pas de sacralité. C'est notre histoire. Notre histoire, c'est ce génocide. Et donc, ça fait partie de la cité. Après, au niveau juif...
À Toulouse, Maurice Lugassi, l'un des deux protagonistes du colloque qui se déroulera le 24 novembre à l'Institut catholique, est également le coordinateur régional du mémorial de la Shoah. Fin septembre, à la demande de l'Association des Amis de Radioprésence, du Monument de la Résistance au mémorial de la Shoah, en passant par le mur des Justes du Jardin des Plantes et jusqu'à la synagogue de la rue Palapra, il organisait un parcours mémoriel où il évoquait le destin des Juifs à Toulouse, leur rôle dans la résistance, ainsi que le destin des justes parmi les nations. En retraçant des trajectoires individuelles, celles de François Verdier, de Marcel Janger, d'Alfred Nakache et de tant d'autres anonymes, sur les lieux mêmes où ils ont vécu, ils ont enraciné ainsi cette histoire dans notre ville et lui donnait chair.
Alors, ça, c'est le monument en hommage aux justes parmi les nations. Alors à l'époque, c'était les Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, ce serait, c'est pas la Haute-Garonne, puisqu'on dépasse la Haute-Garonne. C'est pas non plus l'Occitanie, c'est plus petit que l'Occitanie. Bref, Midi-Pyrénées, vous êtes, on est tous à un âge où on s'en souvient. Donc, ce qui est intéressant avec le titre de juste, c'est d'abord son origine. Le titre de juste est décerné par une institution israélienne qui s'appelle Yad Vashem, qui se situe à Jérusalem. Et ce titre est décerné après une enquête. Comment ça fonctionne? Alors, ça concerne des non-juifs qui ont sauvé des juifs au péril de leur vie, c'est la définition consacrée, au péril de leur vie, sans rien attendre en échange. Ça devient plus compliqué. Et c'est décerné donc par Yad Vashem. Donc comment ça fonctionne? C'est pas la personne qui va dire « Moi, j'ai fait ça pendant la guerre ». C'est un juif qui a été sauvé, qui va faire un courrier à Yad Vashem, qui va ouvrir un dossier. Et il faut à ce moment-là deux témoignages signés. Et quand on a deux témoignages signés, en général, la médaille des justes est immédiatement remise. Ça date de 1962, juste après le procès Eichmann. Et le procès Eichmann, il faut bien voir qu'au procès Eichmann, la lettre de Saliège a été lue. Au procès Eichmann, on a pris conscience non seulement de l'horreur de la Shoah, enfin au niveau du monde, de l'horreur de la Shoah, mais aussi du destin des justes et de l'action des justes. Et comme modèle dans le monde, j'exagère, dans l'Europe, eh bien, ils ont choisi la lettre de Saliège, de Monseigneur Saliège.
On va parler de cette lettre de Monseigneur Saliège. 80 ans après, 80 ans plus tard, quelle est l'actualité de cette lettre et quelle est la pertinence, justement, d'en parler, de commémorer?
Alors, elle est très importante. 80 ans plus tard, elle est très importante de plusieurs points de vue. D'abord, d'un point de vue historique, elle a été un peu oubliée, cette lettre. Et il est important de rappeler le rôle central de cette lettre, de Saliège, de Toulouse, au sein de la Seconde Guerre mondiale en France. Elle a eu un effet essentiel, elle a permis d'arrêter pendant plusieurs mois les rafles, elle a permis d'annuler des 15 convois qui devaient partir de Drancy. Elle a fait une pause dans la Shoah en Europe, elle a permis une pause, c'est assez extraordinaire. Et c'est une lettre qui a eu une répercussion, tout le monde s'est rendu compte qu'elle était importante, puisqu'elle a été traduite pour la BBC, elle a été traduite pour le New York Times, donc... Oui, pour la Shoah en Europe, elle a de l'importance. Donc, il était essentiel de la rappeler, et de rappeler cette lettre. Et puis, aujourd'hui, elle prouve que quand on le fait avec sensibilité et intelligence, le fait de s'élever contre quelque chose peut fonctionner. Et dans sa lettre, certes, c'est une lettre pour défendre les Juifs qui ont été à ce moment-là sortis des camps de Noé et Sébédou, mais il insiste beaucoup sur les étrangers. Les étrangers sont nos frères et les étrangères sont nos sœurs. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui nous rappelle à notre responsabilité. On fait ce que l'on veut, on n'est pas obligé d'aller se battre en permanence, mais au moins, ouvrons les yeux et regardons ce qui se passe autour de nous, d'actes inhumains, dégradants, qui font du mal à l'humanité. Donc oui, c'est très important de la rappeler, même 80 ans plus tard, même 100 ans plus tard.
Un rappel indispensable dans une indifférence plus ou moins générale.
Oui, alors c'est une indifférence, c'est-à-dire qu'on est dans l'ère de l'hyper-individualisme, de l'hyper-narcissisme, on ne fait que se regarder dans les petits écrans, mais c'est vrai. Et en même temps, je vois en tant qu'enseignant, en tant que prof, non, ça les touche. Ça fonctionne. Là encore, ce week-end, j'étais dans un petit village en Dordogne. Il y avait, et j'ai rencontré plus de 150 élèves qui étaient là, pas parce qu'ils étaient forcés, enfin, ils étaient un peu forcés, mais ils étaient intéressés, voilà. Ils n'ont pas montré de signes d'ennui. Et non, ça les touche, ça les concerne, parce que ce qui est très fort avec cette lettre et avec ce que l'on fait autour, ça s'est passé près de chez eux. Ça ne s'est pas passé au fin fond de la Pologne, au fin fond de pays hyper glacé. Non, c'est près de chez eux. Le siège de la Gestapo est à Toulouse, la Wehrmacht était à Castelmaurou. Enfin, ça s'est passé près de chez eux.
Pour eux, c'est très concret. Ça devient concret.
Et les noms des rues, on est aux allées François Verdier, ils vont prendre le métro vers Marcel Langer. Lycée Raymond Nave, enfin, ça n'arrête pas. Donc,
d'où l'importance de les enseigner, de dire.
Oui, l'importance d'enseigner, de dire. Après, cette période est essentielle. Alors, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à enseigner. Mais cette période nous apprend énormément sur l'humain, sur l'humanité, et sur, finalement, je le dis, sur ce qu'il faut faire. Ça nous donne des leçons. On dit, il faut pas juger, il faut pas. Non, ça nous donne des leçons de vie, des leçons de morale. Ça semble désuet, obsolète, mais ça me semble encore très important aujourd'hui.
Une commémoration qui aujourd'hui, ici à Toulouse et plus largement dans la région, dépasse de bien loin les seules deux communautés juives et catholiques.
Alors oui, en fait, c'est une lettre sur l'humanité. Ça nous renseigne sur l'humanité. Et ça nous alerte sur l'humanité. Là, il se trouve qu'effectivement, on l'organise entre communauté juive et catholique, parce que c'est ça Liège. Si on avait évoqué le pasteur Bogner, on aurait pris en compte davantage les protestants. Mais c'est vrai que c'est le monde général des justes parmi les nations, où on a majoritairement, non, mais on a des catholiques, des protestants et les laïcs. Il ne faut pas non plus oublier. Moi, je pense aux instituteurs qui ont été très importants, aux instituteurs, les maires, le personnel des mairies qui était essentiel parce que autour de Saliège, de ce qu'il a mis en place, il fallait beaucoup de relais. Ces relais étaient majoritairement catholiques, mais ils ne pouvaient pas faire tout seuls. Il y avait les organisations juives et puis tous les laïcs qui étaient là pour aider aussi tout simplement l'humain.
Toulouse, durant les années de guerre, l'Institut catholique, autour de son recteur d'alors, Monseigneur de Solages, est également une plaque tournante et un haut-lieu de la résistance. Marie-Thérèse Dufaux, chargée de recherche en histoire contemporaine, qui interviendra à l'Institut catholique lors de la journée d'études du 24 novembre et que j'ai rencontrée il y a quelques années à l'occasion de sa thèse sur Monseigneur de Solages.
Il aide des réfugiés et des juifs Donc il a inscrit plus d'étudiants juifs que ne le permettait le numerus clausus. Et il embauche certaines personnes à l'Institut catholique, par exemple à la bibliothèque, comme employé surnuméraire avec Mgr Martimore. Ils organisent aussi des conférences. En fait, il permet aux personnes qui rencontraient justement des problèmes à ce moment-là de pouvoir continuer leurs travaux quand ils viennent aussi étudier à la bibliothèque. Et il aide aussi à leur convoyage avec Edmond Michelet. Et dans ses discours aussi, il prend vraiment position contre le régime de Vichy et il fait des discours sur la vérité en s'opposant à la propagande. Il rappelle dans un hommage à Bergson qu'on ne peut pas condamner un homme comme ça et qu'il a été un honneur pour la France. Donc c'est toujours à travers à la fois ses travaux et puis ses actions qui prend position. Il avait fait des faux papiers de Vladimir Jankélévitch aussi. Enfin, c'est vraiment. Il y a Georges Friedman, Jean Cassou qui fréquentent l'établissement. Il y a aussi Clara Malraux. Donc vraiment à la bibliothèque, mais aussi en contact avec le recteur, puisque certains viennent même suivre les cours de Mgr de Solages après avoir discuté avec lui de Teilhard de Chardin. Et donc c'est vrai que ça devient un des pôles de la résistance. Puis aussi, comme Mgr de Solages avait été averti par son cousin l'abbé René de Noroy de ce qui se passait en Allemagne, il a su très vite la situation, enfin, par rapport à la montée du nazisme, et après mettre en place cet espace pour les personnes.
Pourtant, Mgr de Solages n'a pas le titre de juste, Maurice Le Gassier.
On sait qu'il le mérite. On sait que l'Institut catholique a sauvé Jankélévitch et Meyerson. On sait que l'Institut catholique, sa bibliothèque, était un lieu de réunion des résistants juifs en particulier. On sait que l'Institut catholique donnait à tour de bras des cartes d'étudiants. J'en ai retrouvé à des juifs qui n'étaient pas étudiants, mais qui faisaient des faux papiers. Et cette carte d'étudiant tendait à corroborer le faux nom qui était sur le faux papier. S'il y a deux papiers qui ont le même nom, peut-être que c'est juste. Et donc, on sait qu'il a agi. Et pourtant, il ne l'a pas, le titre de juste. Et j'ai eu la formation, parce que cet été, j'ai écrit un livre sur les justes en Occitanie qui devrait paraître aux éditions Priva au mois de mars, on espère. En fait, le fin mot de l'histoire, où est-il ? Le fin mot de l'histoire, c'est que Yad Vashem, à Toulouse, c'était un monsieur qui aujourd'hui est décédé, qui était enfant caché à Massy, au couvent de Massy, par Albert Seffer. Il était caché au couvent de Massy avec la sœur Bergon. Et il a essayé de faire un dossier pour Solages. Et avec un ami, monsieur Rab, qui lui a été à l'origine d'un titre de juste pour un instituteur et un maire à Boulogne-sur-Gesse, ils ont alerté tous ceux qui pouvaient aider. Ils ont demandé à la famille de Jankélévitch un témoignage. Ils ont demandé à Edgar Morin, qui s'appelait alors Edgar Naoum, un témoignage. Il est passé par l'Institut catholique. Ils ont demandé partout où ils ont pu. Personne. Il est dégoûté, je l'ai eu au téléphone, enfin je l'ai vu cet été, il est Daniel Rab, il est dégoûté, personne ne lui a envoyé la moindre témoignage signé.
Tout au long de ce parcours mémoriel, Maurice Le Gassier évoquera Moissac, le village des Justes, où dès 1939, le maire Roger Daltil accueillera chaleureusement Bouly et Chata Simon et leur équipe d'éclaireurs israélites. La maison recevra des dizaines et des dizaines d'enfants de tous horizons, orphelins, enfants de déportés, enfants confiés par les mouvements juifs. À Moissac, la majorité des habitants n'a jamais vu de juifs. Mais pas un ne parlera, pas un ne dénoncera, et bien au contraire, ils aideront ces enfants, et pas un ne sera pris. Maurice Lugassi évoquera également la maison de Massip à Capdenac et la colonie Sainte-Germaine où œuvrait Mademoiselle Thèbes, dont le dévouement permet de placer des enfants juifs en divers lieux et notamment dans un centre d'accueil situé à Vendine et dont je retrouve des traces aux archives diocésaines rue Perchepinte où l'actuel archiviste Christian Lavial m'introduisait.
Ah oui, là c'est... voir le but d'escalade. Et le magasin, il est là-bas. Vous voyez, c'est encore plus haut. Mais après, bon, c'est le toit. Attendez, je vous précède. J'allume. Attendez, il y a quelque chose d'intéressant. Par exemple, là, c'est un dossier extrêmement demandé. C'est les enfants juifs qu'il a, Saliège, là, qu'il a sauvé, qui étaient cachés à Vendine. Donc là, c'est le dossier avec leur nom. Vous voyez comment ça se présente. Vous allez voir comment ça se présente.
Ah oui, là, c'est un nom polonais. Zakrewski David.
Alors, en réalité, ils étaient confiés, les parents, dans un papier... donner mandat au cardinal Saliège de s'en occuper. Donc il y avait une lettre des parents qui le chargeait en quelque sorte de. Qui lui donnait une sorte d'autorité parentale, en quelque sorte. Donc là, on a tous les enfants.
Et est-ce que vous savez s'il y a certains de ces enfants ensuite qui ont été sauvés, qui sont venus après chercher des.
Ah, mais écoutez, il y a trois. Au tout début où je suis arrivé ici, j'ai un Belge qui nous a contactés, qui a 90 et quelques années maintenant, et qui voulait des photos de Vendine, de l'endroit où il avait été, parce qu'il a écrit un livre. Et il voulait, pour illustrer ce livre, des photos de la maison où il avait été caché à Vendine, puisque là, c'est, tous les enfants étaient à Vendine. Vendine, c'est du côté de Bourg-Saint-Bernard, sur la route de Castres. Ouais. Et donc... il se trouve qu'un conseiller municipal de Vendine était venu juste avant, parce que pour le bulletin municipal de Vendine, il voulait faire un peu l'historique de ce que la commune avait fait dans cette affaire de sauvetage des enfants juifs. Et donc, je l'ai contacté, il m'a amené à l'endroit, on a fait les photos... et j'ai pu lui envoyer en Belgique. Il était tout à fait content parce qu'il va illustrer son livre avec ça. Donc il y a des gens qui sont passés par Vendine et donc qui ont été sauvés, qui existent encore et qui nous contactent. Oui, c'était assez émouvant.
L'année dernière, nous avons inauguré une plaque qui est celle qui reprend les 48 noms des enfants juifs déportés et assassinés depuis Toulouse. Ces 48 enfants sont là et c'est un travail de longue haleine d'une association La Mémoire des enfants juifs déportés avec Rachel et Alain Roisès entre autres. Et dans cette liste, je vous propose de venir la voir rapidement. Le premier convoi est en 1942. Puis, le deuxième convoi, on est en 4 septembre. Après, c'est le 13 février. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. On n'a pas 6 mois, mais on a 5 mois de pause. Ces 5 mois de pause, c'est la lettre de Saliège, entre autres. Et puis, quand on regarde les âges, la plus jeune a 3 mois. On a la fille d'Alfred Nakash. Actuellement, il y a une exposition sur Alfred Nakash à l'espace du judaïsme. Elle est libre d'accès. Puis en novembre, il y aura le vernissage le 10 novembre au Castellet de la prison Saint-Michel sur Alfred Nakash. Là, c'est sa fille, Annie Nakash. Vous avez cette liste qui est absolument terrible. Au début, on voulait mettre les lieux de naissance pour montrer que 95% de ces enfants sont nés en France et qu'ils sont français. Et que quand quelqu'un dit que... Ça m'énerve.
Nakash.
Oui, c'est Alfred Nakash, le champion du monde, c'est ça. Celui qu'on a surnommé après le nageur d'Auschwitz. La piscine Nakash, l'ensemble. Qui est terrible. Là, vous n'avez que 48 noms. Sur les 76 000 juifs de France assassinés, il y a 11 000 enfants. C'est énorme. C'est énorme, 11 000 enfants. Quand on pense que, par exemple, les enfants qui ont pu s'échapper vers l'Espagne, j'ai travaillé là-dessus, oh, ils sont à peu près 200. C'est une goutte d'eau. Ah mais oui, bien sûr. Et sans parler de Raphaël, 3 ans, 3 mois. Ouais, de les mettre comme ça dans des wagons pour les gazer.
Transmettre, ériger un rempart contre l'oubli pour éduquer contre la haine de l'autre et l'intolérance, c'est la mission essentielle du Mémorial de la Shoah et de nombre d'enseignants qui, dans notre région, s'attachent plus particulièrement à faire reconnaître le destin de ces hommes et de ces femmes, de ces justes également, qui vivaient sur notre petit coin de terre. Cette mission, cette responsabilité, c'est celle notamment de Denis Beau, professeur d'histoire à Toulouse, qui, il y a quelques années, faisait paraître une biographie d'Alfred Nakache.
Alors ça vient d'un projet pédagogique, je suis enseignant, et donc c'était essayer de savoir comment les élèves pouvaient être intéressés par l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et c'est vrai que le sport les intéresse beaucoup, donc je me suis dit pourquoi ne pas lier histoire et sport, et certains élèves m'ont dit qu'ils allaient se baigner à la piscine Nakache, et ils m'ont demandé qui était ce Nakache, donc je me suis dit tiens pourquoi pas travailler là-dessus, et j'ai à cette occasion rencontré donc des gens de la famille. Ils sont venus aussi témoigner devant les élèves et certains m'ont dit, notamment des membres de la famille, pourquoi est-ce que vous n'écririez pas un livre, parce qu'il n'y a rien d'écrit en fait à Toulouse sur ce personnage. Il y a la piscine, il y a d'autres piscines Nakache, il y en a une notamment à Paris qui a ouvert il y a quelques mois, pourquoi est-ce que vous ne travailleriez pas là-dessus? J'ai dit ben voilà, banco, ben, je vais essayer donc de travailler. Donc ils m'ont ouvert les archives familiales, j'ai été travailler sur des archives départementales à Paris, je trouvais plein de choses sur Alfred Nakache. Et donc voilà, c'est un peu à l'origine, c'est un projet pédagogique qui m'a conduit vers la famille et vers ce personnage assez au destin exceptionnel, assez fabuleux quoi. Et vers l'écriture aussi. C'est un personnage très secret. J'ai eu beaucoup de mal à avoir des informations, notamment sur la période de la déportation. Il l'a peu évoqué. C'était quelqu'un qui s'isolait de temps en temps lors de repas familiaux ou autres. Il disait pas grand-chose, même lorsqu'il y avait des questions de la part de ses neveux, nièces, etc. C'était vraiment un mur qu'ils avaient devant eux. Et en même temps, il y avait une autre partie du personnage intéressante, notamment les gens qui avaient nagé avec lui, qui disaient qu'il était quelqu'un de très, très joyeux, très, très guilleré, qui faisait des blagues, etc. Qui faisait même des blagues juives. Sur l'humour juif, etc., et de l'autodérision, donc un personnage un peu, voilà, qui a une double, enfin pas une double personnalité, mais plusieurs facettes, mais qui effectivement n'évoquait pas ou très peu donc le drame qu'il avait vécu, et qui voulait malgré tout être très généreux avec les gens qu'il a formés dans la natation, ou les élèves qu'il a formés lorsqu'il était dans l'éducation nationale, puisqu'il est resté jusqu'en les années 70, donc voilà, quelqu'un qui s'est mis au service des autres, peut-être pour compenser tout ce qu'il avait subi pendant les années d'occupation, les années noires en fait. Là, si on fait une lecture psychanalytique, c'est qu'il perd sa fille, et donc il n'a jamais eu d'autres enfants, il perd sa fille à Auschwitz, il n'a jamais eu d'autres enfants, et donc en fait on sent qu'il a mis tout son engagement et son poids sur justement la reconnaissance qu'il avait d'autres enfants qui étaient en fait ses élèves. Il était vraiment à leur service. J'ai pu rencontrer donc des gens qu'il avait formés, qui aujourd'hui sont des enseignants de sport ou des nageurs, et qui m'ont tous confirmé ça, c'est vraiment cette idée de générosité extrême qu'il avait. Il comptait pas ses heures, il était toujours au service en fait des plus jeunes, ou même quelquefois il a animé des clubs un peu pour vétérans, et même pour des vétérans, il donnait encore quelques conseils même au soir de sa vie, donc une grande générosité.
Il y avait des juifs ici à Toulouse qui résistaient. Il y a une résistance juive.
Alors, il y a une très forte résistance juive. Et ce sur quoi je travaille, ça a déjà été montré un peu, mais là aussi tombé dans l'oubli, c'est qu'on a une résistance juive qui est l'armée juive. Et l'armée juive qui va naître en 1940 à Toulouse et qui va être le premier groupe juif à créer des corps francs, c'est-à-dire des corps de guérilla. Et ils vont les créer à Paris, Lyon, Grenoble, entre autres, Montpellier. Ça veut dire qu'on a non seulement une résistance juive, mais on a un des plus importants groupes en France de résistance juive. Là, je parle des corps francs, c'est-à-dire ceux qui vont prendre les armes. Mais dès 1940, l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, les EI, ce sont les scouts juifs, vont faire du sauvetage. Du sauvetage, de l'assistance dans les camps. Donc oui, il y a cette résistance juive très importante à Toulouse, et l'un des leaders de cette résistance a même écrit en 1947 Toulouse, capitale de la résistance juive.
Les camps, ce sont ceux qui sont ici dans la région, les camps de Noé, Dresde, oui. Ou plus largement les
C'est plus largement, c'est-à-dire celui qui a le premier qui a attiré toutes les attentions, c'est le camp de Gurs près de Pau, parce que le camp du Vernet, c'est essentiellement des communistes, mais ils y allaient moins facilement. Donc, et ensuite, on a le camp de Rivesaltes, évidemment, mais on a aussi dans le coin le camp de Jude près de Sept-Fonds, près de Caussade, donc la région de Montauban. Et puis après Noé et Sébédou, effectivement. Pour nous, ce sont les plus proches. En tout, entre les camps d'internement et les centres des travailleurs étrangers qui étaient souvent des apatrides de juifs, avec Geneviève Dreyfus-Armand, elle a vu qu'il y avait à peu près 200 lieux dans la zone non occupée qui peuvent être apparentés à des camps. Et là, on parle des lieux pour les juifs, puisque les Espagnols, eux, pour la très grande majorité d'entre eux, quand ils sont arrivés en 39, à partir de 40, ils avaient le plus souvent un travail et ils ont pu sortir, travailler dans les champs ou travailler dans l'industrie. Et très rares étaient ceux qui sont restés dans les camps. En revanche, nombreux sont ceux qui sont allés se battre dans la résistance.
Une histoire, vous nous le disiez, qui est vraiment ancrée ici dans cette ville. Ouais. Alors, nous sommes juste face au monument du mémorial de la Shoah. Vous avez parlé du jardin des plantes. Cette histoire est vraiment ancrée, elle est vivante ici aujourd'hui à Toulouse. Elle est toujours vivante.
Alors, elle est là, c'est-à-dire que...
Elle est présente.
En tout cas, elle est présente par des lieux historiques, des lieux mémoriaux. Ensuite, évidemment, les témoins disparaissent et donc elle est moins présente du fait de leur disparition. Mais il suffit d'ouvrir les yeux, effectivement, elle est très très... Et pas seulement ici, mais dans toute la ville, partout, il y a des plaques. Si on va au Cap Wilson, la plaque qui rappelle l'attaque du cinéma Les Variétés par des membres de la 35e Brigade. Et puis il y en a beaucoup comme ça. Oui, c'est une histoire qui est présente. Maintenant, encore faut-il ouvrir les yeux. Mais elle est aussi présente parce qu'il y a plusieurs mémoires. Il y a la mémoire juive qui est là et qui est concernée par Saliège, la mémoire espagnole des républicains espagnols qui est très très importante, on le sait, à Toulouse, et qui ensuite, après la retirada, elle va se transformer en mémoire de résistants. Donc il y a un bouillonnement, oui, à Toulouse, qu'on ne trouve pas dans toutes les villes.
Comme vous disiez, les derniers survivants disparaissent, donc il y a eu le temps du souvenir. Le temps de la mémoire, et maintenant c'est peut-être le temps de l'histoire.
Oui, c'est ça. Maintenant, il faut prendre le relais. On est encore en train de recueillir les derniers témoins. J'ai encore rencontré samedi une dame qui n'avait jamais témoigné, qui était cachée en Dordogne après avoir été envoyée depuis Nancy ou Metz. Et oui, on essaie quand même de collecter encore.
De recueillir cette mémoire.
Elle est là. Mais oui, après, c'est les historiens qui prennent le relais, les enregistrements, on en a beaucoup, on continue à en avoir. C'est important. Mais ce qui est important, c'est ce qu'ils transmettent, c'est-à-dire ce qu'ils... Et c'est vrai que ça, on le perd. Je pense qu'il y a... Enfin, c'est évident, il y a une perte irrémédiable. Rien ne remplace parfois la colère qu'on entend dans une voix ou la... Et puis les larmes. C'est fou, comme ils ont 90, 95 ans et les larmes leur viennent aux yeux lorsqu'ils se rappellent le moment où ils se sont séparés de leurs parents à l'arrivée au camp ou lorsque les parents ont été arrêtés. Ça, rien ne le remplace. On peut le mettre dans les livres d'histoire, mais non.
Et la pudeur aussi.
Oui, oui, oui. Ah oui, c'est ça. Et jamais ils ne racontent l'extrême cruauté des faits qu'ils ont vécu. Parfois même on a de l'humour. Parfois même il y a l'humour qui est là. Ouais.
Aujourd'hui, la communauté juive, est-ce que vous pouvez nous la présenter ici à Toulouse ?
Oui, alors, c'est une communauté juive, si on parle aujourd'hui en 2022, c'est une communauté juive traumatisée. Traumatisée par ce qui s'est déroulé à l'école Otsara Torah. C'est une communauté qui a
à partir de l'attentat, c'est vidé. Beaucoup de monde est parti. Pas seulement en Israël. Beaucoup sont en Israël. Beaucoup de jeunes sont partis vers le Canada. Ce sont les destinations habituelles. Les États-Unis ou l'Amérique du Nord, Israël sont nos destinations habituelles. Donc c'est à peu près ça, c'est vrai, très majoritairement vers l'Israël, vers l'État d'Israël.
Mais il y a vraiment une évasion,
il y a vraiment une perte énorme. On n'a pas de chiffres parce que on n'a pas de chiffres. Mais on le voit dans amis qui sont plus là, les enfants des amis. Je vois la génération de ma fille aînée qui a 26 ans. Oui, c'est palpable. C'est vraiment patent. Et c'est vrai que c'est une communauté qui vit. Elle vit pas dans la peur, mais elle vit quand même dans une forme de méfiance. Ouais. Ouais, de méfiance. Il faut voir notre espace de judaïsme, qui est un magnifique bâtiment qui était destiné à être ouvert. Maintenant, il faut un sas de sécurité. Pour tout, il faut une sécurité. Et c'est effrayant. Ouais. C'est effrayant. Hier encore, je regardais sur la carte l'endroit où se trouve l'école primaire et maternelle juive, et je faisais remarquer à la personne qui était avec moi, tu vois, cette école, elle est au bout d'une impasse, ce qui fait qu'elle est moins sensible aux attentats, parce que celui qui va venir attaquer peut plus repartir. Et c'est horrible. C'est horrible. Donc on est... Alors, ça a été réactivé, évidemment, par le Bataclan, par tout ce qu'a vécu la France en général, mais c'est une communauté traumatisée. Je dis pas qu'elle est, tout le monde est prêt à partir. Non, beaucoup veulent rester, beaucoup sont bien. Mais l'idée de départ pour nos enfants, elle est inscrite, elle est potentielle. La pérennité sur le sol français ou à Toulouse n'est plus acquise. Et c'est terrible parce que c'est une communauté qui est arrivée au début du siècle, c'était les Ottomans, je parle de fin 19e, les Ottomans. Pendant la guerre, les Ashkénazes. Les années 60, l'Afrique du Nord. Elle est récente.
Un visage multiple aussi.
Ah oui, elle est très multiple. Pour ça, oui. Aussi bien au niveau de la pratique religieuse que de la pratique culturelle. Elle est multiple comme l'est le peuple juif, avec beaucoup d'influences d'Afrique du Nord, d'Europe de l'Est, des États-Unis.
Mais avec un même sentiment d'identité.
Ah oui, alors il y a un sentiment d'identité commune. Ça, c'est... Et puis même, c'est assez magique. Tous les juifs du monde entier, on va n'importe où, on rencontre un juif, on a ça chez les protestants, on a ça... Quand j'en parle avec des amis protestants, on retrouve un peu ça. En fait, c'est l'esprit un peu minoritaire. Ouais. C'est minoritaire. On retrouve ça chez les Arméniens, chez les Libanais, tous ceux qui sont en diaspora.
Ou des Français à l'étranger.
Les Français à l'étranger, bien sûr. Voilà, minoritaire. Ouais. Donc, effectivement, on a beau être français, moi j'enseigne la littérature française, on a beau être complètement intégré. En fait, c'est pas seulement qu'on se sent en minorité, on nous met en minorité, on désigne le juif et on le distingue du français. Il y a un phénomène de dénationalisation qui a toujours existé dans l'antisémitisme et qui existe, mais sans vouloir être méchant.
Qui interroge quand même, qui bouscule.
Mais ça nous interroge beaucoup. Par exemple, quand une mairie, je ne parle pas d'ici, mais par quelque part en France, va s'adresser à la communauté juive et va s'adresser par l'adjoint qui s'occupe de la diversité. Nous, on n'est pas dans la diversité, on est français avec une religion, voilà, on ne va pas dans une église, on va dans une synagogue, certes, mais pourquoi les catholiques ne seraient pas dans une diversité, quoi.
Vous n'êtes pas citoyen israélien.
Absolument pas. Ni citoyen israélien, ni soutien inconditionnel de la politique d'Israël. Ce qui nous est inconditionnel, c'est la pérennité de l'existence de l'État d'Israël. Ça, oui. Mais ensuite, on n'est pas tous, quel que soit le gouvernement, à dire « bravo, ils ont raison ». Après, à quel titre je vais critiquer la politique israélienne n'étant pas israélien Donc moi, personnellement, je me tais, quoi. Personnellement, je me sens français avant tout, bien que né à Casablanca, naturalisé français, mais français avant tout. Donc,
Et avec cette responsabilité de transmettre.
Oui, de transmettre et de... En fait, mon but...
Ne pas oublier.
Oui, parce que c'est comme pour Saliège. Mon but, c'est qu'on arrive à vivre ensemble parce que... Il y a ceux qui veulent faire en sorte qu'on ne puisse pas vivre ensemble. Et le but, c'est de faire taire cela. Parce qu'en réalité, il n'y a rien qui l'empêche. Rien, absolument rien. Voilà, jusqu'à un certain degré, jusqu'à comme on veut. Mais vivre ensemble sans se détester, sans... respectant l'autre. C'est ça. Il n'y a rien qui l'empêche. Sauf des gens qui utilisent cela à leur propre profit.
Et ça passe par la connaissance mutuelle.
Oui, tout à fait. La connaissance. Oui. Et c'est là la difficulté. On est aussi dans une époque où de la superficialité, de la vitesse. Et la connaissance, pour arriver à une connaissance mutuelle, elle est difficile. Il est beaucoup plus facile d'adhérer à une idée toute faite. Et le préjugé qui a toujours existé a beaucoup plus de force encore aujourd'hui. Oui. Non, c'est un combat. Mais c'est un beau combat. Donc on le mène tous ensemble. Oui. C'est ça qui est bien.
Et ce jour-là, cette connaissance mutuelle passe par la découverte de la synagogue de la rue Palapra, où Pierre Lasserie, son administrateur, nous accueille. Avant d'entrer, il nous invite à lever les yeux vers le linteau et à déchiffrer ou à se faire traduire la belle inscription qui le surplombe.
Tout à fait, vous avez raison. Il y a une belle inscription qui dit « Béni sois-tu à ton arrivée ». Et béni sois-tu à ton départ.
Baruchata beva'ar ou baruchata betzatar.
Voilà, je trouve que c'est effectivement un très beau vœu. À la fois, c'est une phrase de bienvenue. Ça veut dire que tout le monde est bienvenu dans une synagogue et qu'on peut venir, qu'on soit juif ou pas juif. C'est ouvert. Et ça veut dire aussi béni sois-tu à ton départ. Ça veut dire que finalement, on peut l'interpréter comme on veut, mais ça veut dire que si tu as rechargé tes accus, tu peux repartir peut-être plus en forme que quand tu es venu. Ça veut dire aussi que tous ceux qui sont venus ici se restaurer de façon spirituelle ou au sens propre, puisque vous avez vu qu'on vient de boire un café, de manger quelques petits gâteaux, ils peuvent repartir en forme, et qu'on leur souhaite... tout ce qu'on peut souhaiter à quelqu'un après être passé dans un lieu comme celui-là. Je pense qu'il y a une vraie similitude entre l'idée chrétienne, que j'aime beaucoup aussi, sur la fraternité, sur l'amour du prochain et sur l'aide qu'on peut lui donner et qu'il peut attendre, et ce qui est un petit peu plus réservé dans la communauté juive, dans la tradition juive, mais qui existe aussi, il ne faut pas l'oublier, même si on est un petit peu moins prosélyte et un petit peu moins simple que les chrétiens en termes d'amour du prochain, il est là, l'amour du prochain, il est quand même là, même s'il est un peu plus crypté. C'est une petite synagogue, comme vous avez vu, et c'est une synagogue qui est toujours en fonction depuis donc il y a plus de 200 ans.
C'est le cœur de la communauté juive aujourd'hui à Toulouse, en ce début de 21e siècle.
Oui, tout à fait. Ça a été longtemps le cœur de la communauté juive de Toulouse. Alors, ça l'est encore pour certaines manifestations un peu historiques, comme par exemple les déportés ou le jour des anciens combattants. Les réceptions importantes ont lieu ici, les commémorations importantes ont lieu ici. Il y a eu depuis une synagogue plus importante qui a été construite, c'est celle de la maison communautaire, de l'espace du judaïsme, qui a plus de place, qui est toute neuve, qui est plus grande. Mais la synagogue historique des Juifs de Toulouse, c'est celle-ci, c'est celle de la rue Palapra.
Celle à laquelle peut-être un grand nombre d'anciens sont particulièrement attachés ?
Ah oui, vous avez tout à fait raison de le dire. C'est une synagogue à laquelle beaucoup d'anciens sont attachés, et je dirais même des jeunes aussi, qui se sont pris d'affection pour ce lieu qui a une histoire, qui a un passé. Vous avez vu, les murs sont rempli de plaques au sens propre. Il n'y a plus tellement de place. Si on veut en rajouter une, c'est difficile. Il y a beaucoup de plaques de souvenirs, d'hommages. La plus ancienne est un hommage à ceux qui sont tombés à la guerre de 14. Donc, c'est des plaques très anciennes. Et les plus récentes, C'est celle, par exemple, qui a été faite pour le cardinal Saliège. On a une plaque ici d'hommage pour un cardinal, grâce à sa lettre pastorale et au courage dont il a fait preuve et à l'efficacité dont il a fait preuve pendant la Deuxième Guerre mondiale.
La transmission, un processus au cœur de l'identité juive.
Bien sûr, j'appartiens à une communauté, mais j'ai pas du tout cet instinct. J'ai pas un instinct grégaire particulier par rapport à ça. Donc, c'est vrai que je suis très content, même fier d'appartenir au peuple juif. C'est toujours difficile de parler du peuple juif. C'est pas une race, c'est un choix. C'est pas non plus seulement une naissance. C'est très particulier d'être juif. On vous dit qu'on ne choisit pas d'être juif, mais je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. On choisit d'être juif. On a beau être né dans une famille juive, on passe quand même par des hésitations, des doutes, des réflexions, des examens de conscience. Donc on ne peut pas se contenter de n'être juif.
C'est une démarche personnelle.
C'est forcément une démarche personnelle. C'est forcément une démarche personnelle. Il y a ici quelques personnes qui sont en processus de conversion, qui viennent tous les matins ou tous les shabbats, qui ne sont pas juifs et qui ont envie de le devenir. Vous savez que la religion juive n'est pas prosélyte, donc c'est compliqué de devenir juif, c'est compliqué de se convertir. Donc c'est finalement une chance d'être juif, d'être né juif. Mais pour autant, ça demande une démarche mentale, intellectuelle, spirituelle. Et donc je pense que c'est un choix qu'il faut faire. Alors après, la communauté juive, oui, je suis content d'en faire partie, sans plus. Il n'y a pas de communautarisme, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Alors à ce moment-là, c'est ce que ça veut dire également que cette communauté, ici à Toulouse, elle présente des visages divers.
Ah oui, tout à fait, oui. La communauté juive au sens large présente des visages très divers. Les juifs que vous avez vus ce matin, ce sont des juifs pratiquants. C'est un petit noyau. Je ne sais pas quel pourcentage réel il représente par rapport aux 15 000 ou 20 000 juifs qui composent la population juive de Toulouse, mais c'est un tout petit pourcentage. Peu de juifs sont très pratiquants, beaucoup de juifs font une ou deux choses par an pour se souvenir qu'ils sont juifs et parce qu'ils aiment perpétuer les traditions. Je pense que ça, c'est un point commun qu'on a tous. On est tous très attachés à nos traditions, à nos valeurs. Alors, qu'on soit croyant, fidèle, religieux ou pas, on a toujours cette marque imprimée en nous de transmettre. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est sûrement explicable. Donc, alors
se perpétuer aussi.
Voilà, se perpétuer, durer, continuer, être toujours là. On a quand même passé pas mal d'épreuves, donc c'est pas mal qu'on soit là aujourd'hui. Voilà, donc les visages de cette communauté juive, on ne peut pas simplement les diviser entre juifs pratiquants et juifs pas pratiquants. Je pense que les juifs sont représentatifs vraiment du genre humain. Ça va paraître peut-être un peu prétentieux, mais je crois que c'est tout à fait vrai. Les juifs sont représentatifs du genre humain. Ils sont souvent pris à partie justement parce qu'ils sont très représentatifs des valeurs d'humanité, d'ouverture, de république. Et toutes ces valeurs-là, les juifs les incarnent avec beaucoup de force et de panache souvent. Donc c'est aussi peut-être ce qui parfois les met en difficulté. Donc voilà, je répondrai à votre question en disant que les juifs sont très représentatifs du reste de la population, par exemple d'une ville comme Toulouse. Voilà, ils sont très pluriels et ils ne sont pas plus religieux que les chrétiens, les musulmans ou les protestants. Quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire des juifs de Toulouse ces derniers siècles, on s'aperçoit à quel point la solidarité a joué. Toutes ces vagues de populations juives sont arrivées souvent dans des moments de grande difficulté. Des familles qui étaient qui étaient en partie décimées, qui étaient des familles orphelines, soit qui n'avaient plus d'argent, soit qui étaient dans une situation difficile, de guerre chez elles, etc. Et qui ont toujours été, en tout cas la plupart du temps, reçues, aidées, parce que une organisation s'était mise en place rapidement pour les aider. Donc effectivement, c'est des exemples de solidarité, de sollicitude, d'aide et de témoignages comme ça, très beaux. Aujourd'hui, les choses s'inversent parfois un petit peu, c'est-à-dire qu'on est dans un moment un peu plus difficile en diaspora. Il y a eu, vous savez ce qui s'est passé, donc au-delà de cet épisode épouvantable, il y a eu une recrudescence d'actes, d'actions antisémites, Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de juifs qui se posent des questions par rapport au fait de conserver des attaches en France ou bien d'aller émigrer en Israël et de faire ce qu'on appelle leur alia. Voilà, ils sont peu nombreux, mais ils existent. Il y a un certain nombre de juifs qui ont décidé de faire de juifs toulousains qui ont décidé de faire leur alia. Pas toujours pour les raisons que je viens d'invoquer, pas toujours pour des raisons de crainte ou de difficulté à s'installer. Certains, oui, et d'autres parce qu'ils ont envie de rejoindre la terre de leurs ancêtres. C'est vrai que c'est une très belle histoire, l'histoire d'Israël. Retrouver une terre comme ça, cette espèce de terre promise dont on parle depuis 6000 ans dans nos traditions, et pouvoir s'y installer, je reconnais que c'est un très beau rêve à réaliser. Et j'ai beaucoup d'amis qui veulent le faire ou qui l'ont déjà fait. Moi-même, pour l'instant, je ne suis pas tenté. Je me sens très français et très bien ici. Mais je comprends très bien qu'on aille le faire. Voilà. Donc, aujourd'hui, la situation est un petit peu ambiguë. Je pense que ces problèmes d'antisémitisme qui ont toujours existé, plus ou moins, sont un petit peu en recrudescence. Il ne faut pas se voiler la face. J'espère que ça va s'arranger. J'espère qu'on ne va pas continuer longtemps à avoir des véhicules de police devant les synagogues, devant les écoles juives, et que les choses vont rentrer dans l'ordre. Oui, j'espère que ce n'est pas un vœu pieux et qu'on le verra. On le verra.
Transmission, mémoire seront au cœur de la journée mémorielle du 20 novembre et de celle du colloque du 24 novembre à l'Institut catholique autour des 80 ans de la lettre pastorale de Mgr Saliège sur la personne humaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.